Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Sini.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL quasiment 18h40. On va donc défaire le monde maintenant avec vous, Cyprien Sini et toute la fine équipe. Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. L'info avec un autre regard inattendu, décalé. C'est le contrat jusqu'à 19h. Le menu Cyprien.
On est en plein dedans, comme tous les ans, à la même époque, c'est l'heure des foires au vin. On défait le monde, vous emmène directement au coin des bonnes affaires. Au menu également, un tennisman un poil tendu, des écoliers chinois qui vont se la couler douce, et un tour d'Europe en camion. On défait le monde, la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on attaque avec notre son du jour.
Ça fait du bien, le vin.
Oui, ça y est, c'est parti. Pendant un mois, dans votre supermarché ou chez votre caviste, vous allez voir valser les pubs et autres flyers de la foire au vin, le grand déstockage des vignerons, rituel immuable de la rentrée et une véritable passion française.
Oui, même si on est passé d'une consommation de 100 litres par an et par habitant en 75 à 40 litres aujourd'hui.
Oui, ça reste pas mal quand même, 40 litres par an et par habitant.
Oui, c'est une moyenne, faut le rappeler. On a donc voulu savoir ce que représentaient réellement ces foires au vin, si ces prix ultra attractifs étaient une arnaque et s'il y avait vraiment des bons coups à faire.
Et pour allumer la lumière sur le sujet, on a contacté Jacques Dupont. Il est spécialiste vin à l'hebdomadaire Le Point. Et d'abord, vous allez l'entendre, la foire au vin, c'est quand même un capharnaüm assez hallucinant.
Il y a énormément de tri à faire. Cette année, on a compté à peu près 18 000 vins proposés en enseigne. On en retient 900. C'est pour vous dire qu'on fait un gros tri, quoi.
18 000 références.
Ouais, alors ça peut même monter jusqu'à 30 000 références. Donc autant vous dire qu'il faut se méfier. Du coup, ce déstockage massif, arnaque ou pas ?
C'est un petit peu comme pour les foires de vêtements. Il y a du vrai déstockage et puis il y en a du faux, quoi. Vous savez, pour les soldes de vêtements, on fait venir des t-shirts qu'on a fait fabriquer exprès et qui sont pas vraiment des soldes. Et il y a un petit peu la même chose dans le vin. C'est-à-dire que on fait des masses des cigalous, je sais pas quoi, qui sont toute l'année dans les rayons, qui sont toute l'année dans les coopératives ou chez les négociants et qui sont pas vraiment soldés. Au départ, il devait être à 2 € le vin. Donc c'est vraiment des déstockages de vin de mauvaise qualité, quoi. Ça ne peut pas rémunérer un vigneron à ce prix-là. Donc les bonnes affaires sont plutôt situés à partir de 5 €, de 5-6 € jusqu'à des prix phénoménaux, quoi.
Donc on se méfie des prix trop bas, des masses des cigalous et compagnie, les bonnes affaires à partir de 5 €, mais c'est quoi le vrai bon plan ?
Eh bien cette année, il y a un côté assez exceptionnel et vous allez comprendre pourquoi.
Il y a un événement un peu incroyable, c'est le millésime 2019 des Grands Bordeaux qui arrive sur le marché. Rappelez-vous, 2019, ça a été présenté en juillet 2020. En juillet 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui se passait, mais c'était pas vraiment la joie. On était en train de dire que on avait passé une vague, on attendait la seconde. Évidemment, les grands acheteurs américains, anglais, chinois ne se sont pas précipités à Bordeaux pour venir goûter les vins. Donc, les propriétaires ont eu la bonne idée et l'intelligente idée de baisser les prix de 30%, de 25 à 30%. Ce qui fait qu'on voit arriver là sur les foires aux vins, c'est ce qui en fait tout l'intérêt cette année, des vins qui sont beaucoup moins chers. Par exemple, si je vous cite un cru classé qui s'appelle Belgrave, qui est dans le Haut-Médoc, il était proposé aux environs de 30 € sur les millésimes précédents. Il est à 20,50 € dans les foires aux vins cette année.
Ah, il y a des bons points, des bons plans à faire. Et donc je vous rappelle que le dossier du point spécial foire aux vins, avec tous les bons plans, est à part. Est à vous là. Ça s'ouvre et t'apparaît le 9 septembre.
Avec modération.
Mais c'est vrai que Jacques Dupont, spécialiste vin au point, est toujours de bons conseils. Moi, personnellement, c'est un hors-série que j'attends toujours avec impatience.
Je vais y aller sans le hors-série.
Sous les radars.
Allez, sous les radars. Maintenant, dans On défait le monde, vous le savez, tous les soirs, on vous raconte une info qui est passée totalement inaperçue. Alors ce soir, on va préparer la rentrée scolaire.
Ouais, une révolution qui pourrait faire rêver, je pense à ma fille, les petits écoliers français, Céline.
Oui, c'est cette nouvelle mesure prise en Chine pour pousser les gens à faire plus d'enfants. Hier, Pékin a donc décidé d'interdire les examens écrits pour les élèves de primaire.
Mais attends, c'est quoi le rapport là ?
Je vous l'explique. Là. Les autorités chinoises espèrent en fait comme ça alléger la pression sur les élèves et surtout sur leurs parents. Déjà, le mois dernier, la Chine avait interdit les cours de soutien privé pendant le week-end et les vacances scolaires. Une vraie révolution en fait dans le pays où les parents ont pris l'habitude d'inscrire leurs enfants à plein de cours extrascolaires, souvent très chers, pour garantir leur réussite. L'éducation est devenue tellement coûteuse que ça empêche une partie de la population de faire un deuxième, voire même un premier enfant. Mais là, il y a urgence, puisque la population chinoise vieillit. À ce rythme, d'ici 2050, la Chine pourrait perdre plus de 200 millions de personnes en âge de travailler. C'est énorme, évidemment, ça plomberait l'économie du pays. Alors, après avoir abandonné la politique de l'enfant unique il y a 5 ans, les autorités chinoises autorisent maintenant, depuis le 31 mai, en fait, les couples à avoir 3 enfants. Le 31 mai, c'est encore un peu tôt pour savoir si ça aura un effet. A priori, pour les premiers Benjamin, il faudra attendre fin février. Ouais, voilà.
C'est, ça. Non, mais c'est assez incroyable, cette planification à long terme. Enlever les examens écrits pour avoir une population plus importante dans 20 ans.
Un coup de billard à 3 bandes. Quoi.
C'est complètement fou, effectivement. Et l'info était passée sous les radars. Merci, Céline. On marque une petite pause et on continue de défaire le monde dans RTL Soir. On va vous proposer une info pour briller au dîner. Tiens, pourquoi pas un petit café au dîner, pourquoi pas?
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, 18h46, on continue de défaire le monde jusqu'à 19h dans RTL Soir avec Cyprien Signy et toute sa bande. Vous le savez, dans cette séquence, vous avez le droit, et c'est gratuit tous les soirs, à 2 infos pour briller, ensuite un petit peu plus tard au dîner. Je me permets de juger laquelle est la meilleure et de distribuer les bons points.
Je vous fais confiance. Je
ne sais pas sur quelle base d'ailleurs, c'est vous qui jugez.
C'est
pas très démocratique ça. Hein.
Absolument pas. Et c'est
vrai que ça devrait être un vote démocratique.
Non, je décide. Bon, en tout cas, voici la première info pour briller ce soir au dîner. Alors, vous le savez, il y en aura donc la deuxième sera un petit peu plus tard. On va partir à Marseille pour cette première info.
Oui, la ville au cœur de l'actu, hein, départ à la retraite de Didier Raoult, l'avenue d'Emmanuel Macron demain dans la cité phocéenne. Marseille, à jamais les premiers, et ce soir, c'est pas pour nous parler de l'OM, Laurent.
Non, absolument pas. Mais vous êtes déjà allé, j'imagine, prendre votre café le matin ou à la fin de votre déjeuner dans un bar-restaurant.
Oui,
rien de surprenant. Voilà. Ouais. Alors, il y a une chose que je vais vous apprendre ce soir sur la ville, c'est positif. Le premier établissement où l'on pouvait prendre un café en France a vu le jour à Marseille, en 1671.
Dans toute la France, le premier.
Et c'est plutôt logique, Cyprien, puisque le café a débarqué pour la première fois dans le pays en 1644, dans la cité phocéenne, à bord d'un navire qui venait d'Égypte. Alors, pour être plus précis, ce café a été ouvert près du Vieux-Port par un Arménien qui s'appelait Pascali. Et là, vous n'allez pas me croire, c'est un succès, à tel point qu'il a vendu son établissement et il est allé ensuite s'installer à Paris, dans la capitale, à la Foire Saint-Germain, pour vendre du café, donc Marseille, à jamais les premiers.
L'exode, c'était la première
mais
info.
Mais il a fini par choisir Paris, c'est quand même pas retiré.
Il y a des Marseillais très bien qui viennent travailler à Paris et puis après qui rentrent plus tard.
On rappelle à nos auditeurs, pour ne pas que ça tourne à la private joke, que Cyprien est bien entendu né à Marseille et Marseillais plus que jamais. Merci pour cette info pour briller, Laurent.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Et chaque soir dans On défait le monde, vous attendez le verdict. Alors, un loser ou un winner, c'est l'impitoyable Céline Landreau qui décide, qui désigne si c'est un gagnant ou un perdant le soir. Et alors aujourd'hui.
Et alors Céline, vous savez, elle a la langue française chevillée au corps. Oui. Du coup, c'est un tennisman qu'on adore qu'elle a dans le viseur.
Oui, Benoît Paire, on vous en parlait hier en vous disant, rappelez-vous, qu'il avait très mal vécu la pandémie, les matchs sans public.
Il y a zéro ambiance, il y a zéro truc, il se passe rien. Alors vous allez tous dire oui, c'est comme la vie normale. Ben moi, la vie normale, je trouve qu'elle est à chier en ce moment. Et là, le circuit, il est à chier pareil.
Eh bien maintenant, les spectateurs sont revenus, mais ça va pas mieux. Tendez l'oreille. Pardon pour les oreilles chastes. C'était la nuit dernière, ça, à l'US Open, premier tour du tournoi américain. Et notre Français, mené par Lajovic, qui craque complètement dans le deuxième set. Là, il s'adresse à l'arbitre. Il râle contre les spectateurs qui parlent quand lui joue. Finalement, le public, ça le gêne un peu.
Pas de jouer.
Ah. Aïe, même les commentateurs ont eu mal pour le parasol qui a pris un coup de raquette. Et dans la foulée, donc, fuse cette insulte que vous avez entendue il y a quelques secondes. Comme tout le monde, on s'est dit que c'était pour le spectateur qui parlait. Bizarrement, non. Sur Twitter, ce midi, Benoît Paire assure qu'il se parlait en fait à lui-même.
Ah oui, bah oui.
Chacun est libre de le croire ou pas. En tout cas, ça lui était déjà arrivé parce qu'il s'était déjà excusé.
Parfois, je vais trop loin. Parfois, je m'excuse. Quand j'insulte un spectateur, j'ai pas à l'insulter, c'est sûr. Après, ça sort comme ça. C'est pas que je vais l'insulter vraiment. C'est juste que sur le coup, je suis énervé.
Ouais, oui. Et le problème, c'est qu'il s'énerve beaucoup, Benoît Paire. Avec lui, on entend souvent ça. Le tout bruit de la raquette qu'on fracasse sur le sol. Et quand les raquettes ne suffisent pas, voilà ce que ça donne sur le court. Attention, encore une fois, oreilles sensibles, s'abstenir.
La chatte qui va, la chatte. Je rentre chez moi. J'en peux plus, les boutiques. J'en peux plus.
Et malgré ou peut-être grâce à tout ça, Benoît Paire a depuis ce week-end un nouvel équipementier, Célio, la marque de prêt-à-porter, a priori pas vraiment spécialisée dans le sport de haut niveau, mais qui a choisi de s'associer à ce râleur, je cite, tellement français et tellement normal.
Tellement français, tellement normal.
C'est un loser donc, hein.
Oui. Ah oui, oui, bah, quand même.
Tellement loser ce soir. Benoît,
petite camomille peut-être.
Merci beaucoup Céline Landreau. Allez, une petite pause, ensuite on continue de vous accompagner sur le chemin de la maison avec une nouvelle info pour briller tout à l'heure au dîner. Vous allez pouvoir jouer aux spécialistes du ballon rond. A tout de suite sur RTL.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Allez, bonne fin de journée, 18h53, on continue de défaire le monde dans RTL Soir avec maintenant la seconde info pour briller tout à l'heure au dîner. Alors vous savez que le compte à rebours est enclenché.
Tic-tac, tic-tac, il ne reste plus que 5 heures pour boucler les derniers transferts. Mais oui, le mercato estival s'achève à minuit.
On parle de foot, hein,
évidemment.
Bien sûr, hein.
Mais vous Arthur, plutôt que de suivre les dernières tractations, vous êtes intéressé à la première.
Oui, évidemment, ça s'est passé où? Ça s'est passé en Angleterre, le pays du football. C'est là qu'a eu lieu le premier transfert officiel enregistré de l'histoire du football professionnel. Et en fouillant dans les archives, j'ai trouvé Willie Groves, un footballeur écossais, transféré en 1893 de West Bromwich Albion à Aston Villa.
Ouais, deux clubs qui existent encore.
Deux clubs qui existent encore, évidemment. Coût de la transaction, à l'époque, 100 livres sterling.
C'est-à-dire
Ça fait grosso modo 15 000 euros de nos jours. Donc il n'y a pas de quoi se payer un ongle de pied de Neymar, excusez-moi. Ouais. Ce transfert, c'est un événement, évidemment, à l'époque, parce que l'immense majorité des joueurs étaient en fait liés par des contrats à vie à leurs équipes.
À vie.
C'était des contrats à vie. Les footballeurs n'avaient aucune marge de manœuvre. Tout dépendait du bon vouloir des présidents de club.
C'est éviter les feuilletons Mbappé qu'on doit suivre en temps réel. Merci beaucoup Arthur pour cette info pour briller. Je l'aime beaucoup celle-là. Puisque je dois choisir entre les deux. Je suis désolé Laurent.
Encore une défaite pour Laurent.
Vous ne m'avez rien fait. Je choisis encore l'info d'Arthur ce soir.
Mais ça demain Laurent.
Cinq défaites consécutives.
Excellente info pour briller ce soir.
Va falloir que je travaille le moral des troupes.
Au dîner. Vous êtes un bon chef de l'équipe, Cyprien.
Marche ou rêve.
Allez, marche ou rêve, on retrouve notre sérieux parce que ça, on ne vous le cache pas, c'est vraiment notre rendez-vous coup de cœur chaque soir. On va à votre rencontre et on met en avant vos initiatives et surtout de très belles histoires.
Oui, ce soir, Laurent, vous nous vendez vraiment du rêve. Hein. Vous nous présentez une famille qui a décidé de tout plaquer pour faire un tour d'Europe.
Oui, direction la Vendée, là où tout démarre. C'est le projet de Jérémy, Corinne et leurs deux enfants. Alors le départ est prévu fin septembre. Leur toit pendant cette aventure, un camion-maison de 20 mètres carrés totalement aménagé. Et Jérémy est en ligne avec nous. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir.
Vous avez vendu votre maison à La Roche-sur-Yon en Vendée, tous les meubles, quitté votre travail. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer?
L'envie de changement, puis une nouvelle aventure, quitter un petit peu le train-train quotidien, mettre de côté le travail pour un moment, puis partager un peu une aventure avec nos enfants aussi, quoi.
Vous savez que changer de vie, faire ce que vous faites, ça fait rêver beaucoup de Français, ça arrive souvent en tête dans les sondages, mais personne n'ose franchir le pas. Qu'est-ce qui vous a permis de franchir le pas?
Alors, il y a eu une réflexion aussi, il y a eu un moment où, durant les derniers événements, on a fait l'école à la maison avec les enfants. Mmh. Dans un projet comme ça, c'est ce qui était un peu rédhibitoire, qui pouvait nous bloquer, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça marchait très bien. Alors, nos enfants ont 9 et 12 ans, donc il y a une certaine autonomie aussi à ce niveau-là, mais on a vu que ça pouvait fonctionner. Nous, on voulait se déplacer pendant au moins un an, donc on s'est dit, on a vu un poids lourd qui était aménagé, on s'est dit, pourquoi pas nous?
Alors, écrivez-nous, Jérémy, votre camion-maison de 20 mètres carrés. Alors, vous avez tout aménagé. Faites-nous une petite visite guidée.
Donc, c'est un camion de transport de marchandises qu'on a acheté d'occasion. Donc, il y a 20 mètres carrés au sol et il y a 50 mètres cubes. Donc, c'est un camion qui est très haut. Donc, en fait, on se sert de la hauteur pour faire des mezzanines. Donc, l'avant du camion, les enfants ont chacun leur chambre avec leur lit en hauteur et leur bureau en dessous. Après, on a une partie vie au milieu, on a une cuisine. Alors, pas une cuisine de camping-car, c'est carrément une cuisine de maison, en fait, qu'on installe dans le camion. Il y a une douche, il y a des toilettes. Puis nous, notre lit, en fait, est sur la partie arrière du camion, au-dessus du garage.
Après, on rappelle que vous êtes ébéniste, quand même. C'est pas donné à tout le monde de savoir aménager un camion comme ça.
Ouais, alors oui,
moi, je peux essayer, mais je garantis pas le résultat.
Et rassurez-moi, une fois que vous aurez fait votre tour, vous rentrez en Vendée après, quand même.
Et parce que Céline est vendéenne. Elle est vendéenne et elle y tient.
Bon, la Vendée, c'est vrai que c'est pas facile à quitter, quand même.
Je croyais que vous alliez dire c'est pas facile à vivre.
Alors, je dis pas que c'est le meilleur département, mais...
Pas loin.
pas loin quand même.
Et comme sur un bateau, Jérémy, vous avez baptisé votre maison roulante Peter ?
Bah, ça a été assez simple. En fait, c'est parce qu'il est vert. Et il nous a fait penser à Peter Pan. Donc on l'a appelé Peter. On n'a pas mis en entier Peter Pan. On s'est dit qu'on allait avoir des soucis. Donc on a juste mis Peter. Et voilà, c'est la seule raison en fait.
On va pouvoir suivre Peter.
Et pour ceux qui veulent vous suivre, effectivement, rendez-vous sur la page Facebook Le Grand Voyage de Peter.
Et puis on vous rappellera aussi quand on prendra des nouvelles pendant l'année.
Pas de soucis.
Bah, bon voyage.
À bientôt.
Au revoir.
Bonne aventure à toute la famille. Et je voulais juste vous donner les nouvelles de Patrick qui était avec nous la semaine dernière.
Oui, bien sûr.
Il a participé à l'Ultra Trail du Mont Blanc ce week-end. Objectif 171 km. Résultat ?
Ça s'est passé un peu moins bien que j'espérais, puisque j'ai été éliminé au 50e kilomètre après presque 12 heures de course. Oh. J'étais quand même anxieux de ne pas être éliminé dès la première barrière, donc j'ai tout donné au début, et ensuite bah, ça fait un petit contre-coup physique qui fait que les barrières suivantes sont un peu difficiles à passer.
Éliminé autant du coup, hein, c'est qu'il n'était pas dans les délais impartis. Ouais.
Et Patrick a tout de même 74 ans, donc bravo à lui.
Ouais. 50 km, c'est déjà pas mal.
Et on rappelle que si vous voulez mettre en avant un projet, une initiative comme Patrick par exemple, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook ou le compte Twitter d'On défait le monde. Il y a Laurent qui attend vos messages.
On vous attend dès maintenant.
Effectivement, marche au rêve tous les soirs dans On défait le monde, dans RTL Soir, juste avant 19h. On vous attend effectivement parce qu'on sait que vous êtes extrêmement créatifs. Merci les amis.